et vous écoutez France Culture. Nous avons parfaitement le droit de faire des rêves héroïques. Ceux qui disent que nous vivons une époque sans héros ne savent pas où les trouver. Ronald Reagan, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Actualité du DVD ce soir dans Mauvais Genre qui ouvre le dossier Petersen. Deux DVD Blu-ray Collector nous permettent en effet de redécouvrir, signés William Friedkin et Michael Mann, deux films où le Gil Grissom des experts apparaît en vedette, Police Fédérale Los Angeles et Manhunter. Cerise ensuite sur le pan plastique de votre émission de ce soir, le flingueur de Michael Winner avec Charles Bronson en Dynamiteur Orfèvre, une édition Whiteside. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre, qui fera ce soir, je le répète, l'actualité du DVD et Blu-ray, actualité très riche en cette veille de Noël où tout est encore possible pour garnir les petits chaussons. Je serai entouré bien évidemment de Philippe Rouillet.
Bonsoir.
Comment va-t-il?
Mais magnifiquement,
il
là,
va bien.
On s'active avec la hotte là, voilà. Parce que... Il y a du coffret.
Il y a du coffret dans la hotte. Pas mal, sans dire un très bon titre de thriller. À part ça, votre actualité, monsieur Rouillet?
Ah ben, c'est de s'activer aussi sur le film A Ghost Story.
Ah oui.
Formidable film de fantôme qui est sorti. Et donc, il s'agit de faire des articles à Positif et autres pour défendre ce film qui bascule dans le contre-champ pour adopter le point de vue du fantôme.
C'est la première fois que...
Non, on a déjà eu ça, mais c'était plutôt sur un mode ludique. Souvenez-vous des Beetlejuice et autres. Là, cette fois-ci, c'est vraiment pour raconter la mélancolie du fantôme, parce que l'éternité, c'est long. Hein.
Surtout vers la fin. Je vois que monsieur est allé aux bonnes écoles, comme Fausto Fazulo. Bonsoir.
Bonsoir, François.
Alors, résumons-nous l'actualité du PIF cette année, le Paris International Fantastic Film Festival.
La transition est idéale avec Ghost Story, puisque Ghost Story faisait l'ouverture du PIF cette année. Effectivement, c'est un film immense, il faut absolument aller le voir en salle.
Tout à fait. Il est sorti, mercredi.
C'est pour ça, on en parle, c'est pas pour faire les frimeurs qui voient les films en projection de presse, là. Tout le monde
allez-y,
peut y aller.
Vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire, vous allez à la séance de minuit.
Alors, il faut se dépêcher puisque c'est un petit film qui a vraiment besoin, bon, même s'il est sorti par une major, c'est un petit film qui a besoin du soutien des spectateurs si on veut.
Ghost Story.
Si on veut le voir, en fait, dans les meilleures conditions. Donc, le festival s'ouvrait sur Ghost Story, se terminait sur le Godzilla japonais, Shin Godzilla. Qui est un film extraordinaire. Et pour résumer le festival, je vais surtout citer en fait le grand gagnant, qui est un film mexicain qui s'appelle Tigers Are Not Afraid, d'une réalisatrice qui s'appelle Isa Lopez, et qui est un film quelque part entre La Cité de Dieu et L'Échine du Diable de Guillermo del Toro.
Eh bien.
Ça se passe dans les rues de Mexico, on suit une bande d'enfants qui sont confrontés à des trafiquants, et le fantastique y est exprimé de manière très impressionniste. Et c'est un film qui n'a pas encore de distributeur en France, mais quelques personnes sont sur le coup, donc je vous tiendrai informé si sortie française
mais
il y a bientôt.
Si les distributeurs nous écoutent, voilà, ils savent ce
qu'il reste. Exactement, le message est passé.
Affaires et les gens raffinés, beaux et intelligents se précipiteront sur le numéro spécial de Mad Movies classique consacré à Massacre à la tronçonneuse, la saga d'une famille qui a traumatisé le monde, bah dites-moi.
Ah bah oui, c'est les fêtes, il faut savoir mettre les formes. Je pense que Massacre à la tronçonneuse, c'est vraiment le cadeau idéal au pied du sapin. En plus, sapin, tronçonneuse, ça nous semblait tout à fait d'actualité.
Bah, d'autant que, je pense que vous le racontez, je n'ai pas encore lu ce numéro spécial, mais la genèse du film, c'est Noël. C'est Toby Hooper qui fait ses courses et il y a trop de monde et il se dit qu'avec une tronçonneuse, il arriverait
il irait
plus vite
plus
à la
vite,
caisse.
Ouais. Complètement.
Et donc, puis, vraiment, c'est pour Noël.
Et puis, il y a aussi un Laserface qui sort en janvier, qui est donc un film sous forme d'origin story, donc du personnage
vidéo,
de Laserface.
Qui était au pif,
et qui est un direct-to-video, comme beaucoup de films d'horreur aujourd'hui, malheureusement.
Même réalisé par des Français.
Oui, Julien Maury et Alexandre Bustillo. Alors, je signale également, en cette veille de Noël, quelques livres qui pourraient vous tenter. Alors, le premier, un son va suffire pour vous éclairer sur ce qu'il est. Et voilà, Cinéma de minuit de Patrick Brion, c'est paru aux éditions Télémaque, un fort volume de 768 pages avec 2300 photos et documents, et bien qui contient, Philippe Rouillet, c'est extraordinaire, vous qui êtes un grand amateur des fiches de Monsieur Cinéma, là c'est tout, la Ciné-Club de Patrick Brion depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, puisque ça continue, tous les films passés avec les cycles chronologiquement.
Voilà, mais c'est-à-dire que c'est un éphéméride, vous payez l'agenda de quelqu'un d'autre, enfin alors, ça peut correspondre au vôtre, si vous êtes spectateur du cinéma de minuit. Mais voilà, c'est un peu l'intérêt et les limites de l'entreprise.
Voilà, donc vous avez toute l'histoire de ce ciné-club télévisé. Et on voit d'ailleurs que les films que l'on aime, à mauvais genre, sont largement représentés, notamment les films fantastiques et les films noirs américains, le cinéma italien et Tex Avery. Donc encore merci à Patrick Brion. Et donc le livre est disponible chez Télémac. Et puis, par le créateur donc la collection Pour les Nuls, donc Thierry Grillet sort une sorte de coffret avec les plus grands livres, les plus grandes compositions musicales et les plus grands films de tous les temps. Et il y a une série, un chapitre dans le volume consacré au cinéma qui s'appelle Mauvais genre. Bon, voilà, qu'on retrouve aussi des films que l'on a tendance à revoir 10 fois, si ce n'est pas 100. Le cabinet du docteur Caligari, Freaks et autres, La Fureur de Vaincre, Taxi Driver, Star Wars, Apocalypse Now, Blade Runner. Enfin voilà, c'est aussi une section Mauvais genre. Maintenant, on va pointer.
Oui, c'est au sens large, hein, Mauvais genre au sens large, hein, parce que si on met à la fois Freaks, Taxi Driver, Apocalypse Now, Blade Runner. Voilà. Il n'y a que Tarkovski qui réchappe, et encore Stalker pour être mauvais genre.
C'est à venir. Donc dorénavant, on mentionnera toutes les allusions à mauvais genre qui seront faites par-ci et par-là. Mais l'heure est venue pour nous d'ouvrir l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Ma chère Céline, qui vous êtes déplacée bien loin de Paris, quelle est la lettre ce soir?
Eh bien, la lettre ce soir, c'est la lettre D comme Dauchy, Dominique Dauchy, qui peint des toiles hors normes, où l'on croise des créatures hybrides, des psychopompes, des monstres, des mangeurs cannibales. Donc des œuvres qui saisissent et pétrifient, car Dominique Dauchy assume la violence de son travail. Elle qui pratique et définit la peinture comme un attentat contre soi. Mais pour l'heure, c'est une histoire que je vais vous raconter, celle de Dominique Dauchy et de sa sœur Laurence, son alter ego. Le récit démarre en Ardennes, sur les rives de lac des Vieilles Forges, où les deux sœurs aiment se promener. Et il y a des années de cela, elles y ont découvert des vestiges d'arbres, une profusion de souches et de racines enfouies dans la vase et la boue des berges. Commence alors un long travail d'exhumation à pied, en barque. Elles déterrent les racines, les transportent et les stocke dans l'atelier de Dominique Dauchy. Au milieu des peintures, des montagnes de souches s'amoncellent.
Des fragments, quelque chose comme une matière brute, plissée, repliée, compliquée, déchiquetée, accidentée, et impossible à maîtriser dans le sens à reproduire ou à mouler. Pour moi, c'était le contour, la forme, le volume, et être aspiré aussi par la lumière qui la frappe, cette matière, qui la rend tellement contrastée. Et il y avait comme ça une sorte de discours entre obscurité et ténèbres qui m'a vraiment captivée d'emblée. C'était presque un écho au clair-obscur pictural, en fait. C'était ça, en fait, l'idée. Et d'être, comme je dirais, avoir un choc esthétique, c'est ce qui s'est produit avec cette matière. C'était plus du tout issu d'un arbre qui serait comme ça un axe central. C'était des fragments de matière que je pouvais réinterpréter, qui pouvaient aussi bien être un magma volcanique, ou être en suspension, en légèreté, ou en gravité, en inclusion, ou en envol. Et c'est comme ça que j'ai articulé cette démarche en premier axe, c'est-à-dire entre sol et ciel, c'est-à-dire pesanteur. Alors tout ce qui fait que ça a un poids, quelque chose de lourd, style enclume, tout ce qui rapporte à la terre, et puis ce qui peut aussi faire produire une sorte d'envolée presque spirituelle comme ça vers autre chose. C'est comme une sorte de chaos. Par hasard, il y a un morceau qui surgit, on pressent une forme intéressante, à force, parce que on devient glaneur. Je deviens archéologue, je recherche un grand squelette. Et en voyant comme ça affleurer ces souches, ces morceaux de bois, parfois on est déçu parce que ça déçoit nos attentes. Et parfois on découvre ce que j'appelais des merveilles, des choses complètement déchiquetées, compliquées, presque parfaites dans leur propre jus, des formes complètement calligraphiques, des signes avec des anfractuosités, des complications qui mettent en écho des tas de choses aussi, que je retrouve en peinture, dans les plis des tissus, etc. Tout ça s'est confondu avec ma fascination aussi pour les plis et replis. Hein, voilà. Donc à chaque fois, enlever de la vase et produire aussi l'effort pour les faire apparaître à la vue, à ma vue, c'était en soi une création finalement. Et après, le fait de les nettoyer, de les prendre en soin comme un objet précieux, ça devenait des... Chaque pièce était identifiée, avait son identité, devenait presque individuelle finalement. Elle m'apparaissait d'autant plus merveilleusement parce que la boue s'en allant comme ça avec l'eau, j'avais parfois un petit miracle de forme qui me semblait à chaque fois aussi merveilleuse, comme si c'était la première fois que je la voyais. Quoi. C'était une fascination totale.
16 ans plus tard, un projet d'exposition autour des racines d'arbres voit le jour. Il s'agit d'Oncalo, titre de l'exposition qui se tient en ce moment au musée de l'Ardenne de Charleville-Mézières. À côté des vestiges d'arbres suspendus dans les airs, Dominique Dauchy, accompagné de sa sœur Laurence, est parti de deux souches différentes pour créer des motifs grâce aux nouvelles technologies et aux machines 3D. Les souches se trouvant ainsi multipliées à l'infini, reproduites sur toutes sortes de supports. Un travail sur les vestiges, la mémoire, l'exhumation et l'acte de création que je vous recommande vivement. Cela se passe en ce moment au musée de l'Ardenne à Charleville-Mézières, à voir jusqu'au 7 janvier 2018. Plus d'informations sur le site de Dominique Dauchy, www.dominiquedauchy.com.
Merci Céline pour cette entrée, Dominique Dauchy. Donc dans l'encyclopédie pratique des mauvais gens, on peut signaler la très belle revue Les Amis de l'Ardenne.
Oui, qui nous avait fait connaître Dominique voilà. Dauchy. C'était le numéro de décembre 2016 voilà dont vous aviez parlé, je me souviens, et moi. Et là, il y a un nouveau numéro qui vient de sortir, qui est consacré à Marcel Sauvageau.
Voilà, qui est une poétesse. Avec,
qui est morte fort jeune de la tuberculose de mémoire. Le numéro est arrivé ce matin dans votre bureau, François. Donc vous n'avez
Entre-ouvert. Mais je recommande cette revue, Les Amis de l'Ardenne, toujours passionnante, avec des personnalités justement qui valent vraiment la peine d'être découvertes et qui sont d'un mauvais genre, souvent sans aucune ambiguïté. Merci Céline, et puis de bonnes fêtes.
Merci.
En tout cas, nous allons fêter Noël, eh bien, ma foi, à Los Angeles, entre autres, et en tout cas avec quelqu'un qui s'appelle William Petersen, qui est-ce, mais tout le monde le connaît, on va en savoir un peu plus. The Nothing Twist de Pascal Comelade, un choix bien évidemment exemplaire de Laurent Polleret pour cette playlist ce soir de Mauvais Genre. Alors l'émission s'appelle le dossier Petersen, monsieur Rouillet, puisque on va s'intéresser, je dirais, à la carrière, surtout à la première carrière de William Petersen. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce monsieur que tout le monde connaît, peut-être pas sous ce nom-là?
C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de savoir comment il débute, parce qu'effectivement tout le monde le connaît pour son rôle dans Les Experts. Mais avant tout, c'est quelqu'un qui vient du théâtre et qui va débuter au cinéma dans un tout petit rôle chez Michael Mann dans Le Solitaire, voilà, en fait. Et après, après ce petit rôle, Michael Mann a envie de le faire rejouer dans un autre film. Mais entre-temps, c'est Bill Friedkin qu'il fait jouer dans Police fédérale Los Angeles.
Et ça, il aime pas.
Et voilà, Michael Mann.
Il aime pas.
Il est un peu chafouin. En plus, on sait tout parce que ce soir, on parle à la fois de Police fédérale Los Angeles et du Sixième Sens. Donc, que Michael Mann va enchaîner. Après le tournage de Police fédérale Los Angeles de Friedkin, il reprend Peterson. Mais il dit à Friedkin, alors, il vaut quoi sur un grand rôle? Et l'autre lui dit, no comment, tu vois. Et il dit, tu pourrais pas faire un peu péter la moviola, que je vois un peu une scène ou l'autre. Non. Et en fait, Friedkin a refusé de montrer tout Rush avec Peterson, à Michael Mann. Et Michael Mann dit, ça fait rien, moi je mise sur mon gars Peterson, j'étais très content de lui sur le solitaire. Et effectivement, la prestation est tout à fait remarquable. Et c'est très intéressant de le voir dans deux rôles de policier, en quelque sorte d'enquêteur, et avec deux films qui se répondent. Enfin, c'est très marrant que l'actualité DVD fait que des éditions collector de ces films sortent en même temps, à 2 semaines d'intervalle, et qu'on en parle, parce que ces deux films qui racontent des traques. Il y a le policier qui traque le truand, un faux monnayeur dans le cas du film de Friedkin, un serial killer dans l'autre. Mais les enjeux ne sont pas les mêmes, y compris les enjeux narratifs. Et c'est ça qui est très, très intéressant. Et on voit comment la personnalité de Peterson s'adapte un côté métrosexuel chez Friedkin et un côté beaucoup plus habité, fou furieux chez Michael Mann.
Alors, William Peterson, mondialement connu ensuite, par la suite, sous le nom de Gil Grissom, comme étant le personnage principal de la série Les Experts. Du saignant Who Are You des Who génériques mondialement diffusés, donc des experts. Who are you, Fausto Fazulo?
Bonne question, je ne peux pas répondre en fait.
Alors William Peterson, période bleue, si j'ose dire, c'est-à-dire cinématographique.
Ce qui est fou en fait, quand on repense à William Peterson, c'est se dire qu'à l'époque de Police fédérale Los Angeles, il n'avait même pas d'agent en fait. C'est assez dingue quand on voit aujourd'hui. Non, c'était quelqu'un qui n'était représenté par personne.
Il était dans le vide.
Il était, comme le disait Philippe, c'était quelqu'un qui était surtout sur les planches. Et alors même si c'est Michael Mann qui l'a fait tourner en premier, hein, si on veut jouer à la course entre Friedkin et Mann. C'est quand même Friedkin qui lui accorde son premier grand rôle, même si faut savoir que c'est pas Friedkin qui a eu l'idée seul en fait d'aller chercher Peterson, c'est son directeur de casting, le même qu'il avait en fait sur French Connection, qui avait déjà à l'époque amené et Tony Obianco et Roy Scheider et plein d'autres acteurs, qui l'a vu sur les planches William Peterson en fait à Toronto. Il était en train de jouer un tramway nommé Désir et il a dit à William Friedkin, écoute, voilà, il y a un mec qui joue un dans un tramway nommé Désir, et c'est assez incroyable, c'est son jeu n'est absolument pas le même que celui de Brando, alors que tous les comédiens et acteurs qui ont ensuite suivi dans cette interprétation-là se sont calés en fait sur le jeu de Brando, lui fait quelque chose de très très différent, et puis surtout, il dégage une sorte de d'aura, il a une attraction très particulière avec la jante féminine. Donc Friedkin a eu la puce à l'oreille, il est parti en fait au Canada, et puis il a été voir William Petersen sur scène, et il a été convaincu en fait, et c'est comme ça qu'il l'a embauché.
Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Friedkin, il fait toujours ça. C'est-à-dire que soit il fait appel à des stars, soit pour des films comme Fresh Collection, mais c'était aussi le cas d'une certaine manière de L'Exorciste. Il fait appel au directeur de casting, toujours le même. D'ailleurs, le gars avait pris sa retraite, enfin, était travaillé en France sur toute autre chose.
Il vivait à Paris.
Et il l'a fait revenir, il dit, tiens, je t'envoie le scénario, en disant, bon, ben, débrouille-toi, je veux des gens pas connus, pour que les spectateurs ne puissent pas s'identifier à des gens connus et qu'ils soient beaucoup plus proches du personnage. C'est-à-dire que tout peut arriver, puisqu'on ne se dit pas, bah tiens, voilà machin, voilà truc. Le spectateur arrive vierge des personnages grâce à ce choix-là. Et donc, il veut des gens très forts, très bons acteurs qui puissent s'identifier au rôle plutôt que des vedettes. Ce qui, en outre, permet de faire des films bon marché.
C'est
parce que, faut se souvenir, quand il fait Fresh Collection, c'est pas le plus riche du monde. Et au moment de faire Police Fédérale, la roue a un peu tourné. Et après l'échec de Sorcereur et de sa tentative de faire des comédies, il a un réel besoin de se refaire et de se dire... On pourrait peut-être reprendre la version de French Connection et l'adapter au cinéma des années 80, parce qu'en fait, c'est ça, Police Fédérale. Et c'est très intéressant, parce que l'adaptation, c'est pas du tout à couper-coller, hein, mais retrouver un peu de l'inspiration de French Connection en l'adaptant à l'ère du temps. Et ça passe par ce choix de William Petersen, qui est un très très bon choix.
Complètement, ouais.
Police Fédérale Los Angeles, donc qui sort en méga collecteur aux éditions Carlotta, notre premier sujet de ce soir sur France Culture, dans Mauvais Genre.
Make him on a hand-to-hand buy.
You can't come up with the front money. You're not for real.
You're not the first agents to get next to Masters.
You're not wired, are you?
Le trailer de Police Fédérale Los Angeles, une pure merveille d'ailleurs, que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. On vous le recommande, mais également un très beau produit de Carlotta, monsieur
c'est
Philippe.
L'Ultra Collector numéro 8 de la collection Carlotta. Vous savez, cette collection formidable dont on a souvent parlé ici à Mauvais Genre, c'est-à-dire que c'est un vrai...
Citer les précédents, Little
Big Man... Ça avait commencé avec Body Double, hein, de Palma, et puis il y a eu de tout, il y a eu Little Big Man. Le précédent qui est sorti, en fait, une semaine avant le Friedkin, qui est vraiment un truc démentiel que toute l'équipe de Mauvais Genre vous recommande, c'était pas seulement un film, mais quatre. C'est Hitchcock, Les années Selznick. Hein, où enfin on peut voir Notorious les enchaîner dans une copie qui fait pas pleurer les yeux. C'est important. Et alors, c'est blindé de suppléments. Il y a carrément les home movies d'Hitchcock. On voit Hitchcock jouer au tennis, s'amuser avec ses gamins. C'est totalement hallucinant. Et en même temps, il y a un livre avec de vraies analyses. Et le Friedkin, c'est pareil. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le Blu-ray et les deux DVD, c'est-à-dire le DVD du film et le DVD des suppléments. On loge tout dans le Blu-ray. Pour vous donner une idée, en fait, c'est l'équivalent du Blu-ray collector américain, qui n'était jamais sorti en France comme ça, aussi complet. C'est-à-dire qu'il y a tous les suppléments, y compris le commentaire audio de Friedkin, qui est tout à fait intéressant, et tout est sous-titré. C'est-à-dire qu'avant, on avait dans le zone 1, mais sans sous-titres. Et avec ça, il y a un livre, la très bonne idée a été de confier non pas à une personne, mais à un groupe, c'est le collectif d'une revue qu'on aime bien, à mauvais genre, qui s'appelle Septième Obsession, hein, dirigée par Thomas Haydan, qui fait d'ailleurs l'article introductif.
Très très bon texte.
Qui est une des revues de cinéma qui un peu a émergé ces deux dernières années, revue papier, hein, c'est un bel effort. Et du coup, voilà, il y a sept articles, et qui sont sept manières d'aborder le film, qui sont sept études sur le film. C'est-à-dire qu'on n'est pas au moment où on fait des petites critiques, etc. Le film date de 86, on est 30 ans après, Et on a une vraie approche, et il y a deux articles vraiment passionnants, celui de Jean-Sébastien Massard au début, sur l'affrontement des deux personnages comme quelque chose qui a relié avec le principe du faux, le personnage de William Dafoe, le bandit, étant un faux monnayeur. Il explique que cette idée du faux contamine tout le film et contamine la mise en scène, contamine les apparences, un film sur les illusions. Donc on croit qu'on va avoir un film de buddy movie et un film avec juste un flic qui poursuit un criminel, et ça devient tout autre chose. Et puis il y a le dernier essai, qui est l'essai de Pascal Francex, sur la masculinité chez Friedkin et dans le cinéma des années 80, qui est tout à fait passionnant, parce que c'est vrai que c'est le moment du cinéma androgyne. Et il y a quelques scènes dans le film, notamment où on use du pouvoir androgyne de Willem Dafoe, qui a toujours été par la suite un icône gay. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on disait tout à l'heure que c'était le premier grand rôle pour Peterson, mais c'est aussi un des premiers grands rôles de Willem Dafoe. C'est-à-dire que presque tous les gens dans le film sont des débutants. Même si aujourd'hui, on revoit le film, on a l'impression que c'est un film avec des stars. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, une édition très remarquable et qui a un vrai accompagnement du film. C'est-à-dire que une fois qu'on a vu le film, qu'on se l'est remis en tête et qu'on comprend comment le film a été mal perçu en fait à sa sortie en 1986, on est nourri de tous ces éclairages rétrospectifs, et c'est vraiment une édition à se procurer.
Merci Philippe. Pascal Francex, rappelons son très très beau livre et fort gros volume sur le torture porn paru aux éditions dont nous avions parlé à Mauvais Gens. Alors on a mis en appétit nos auditeurs, Fausto Fazulo avec Police Fédérale Los Angeles. On va quand même d'abord en résumer l'histoire, le pitch.
Le pitch est très simple. Nous suivons un agent des services secrets qui s'appelle Richard Chance, qu'on voit au début dans une mission, on va dire, plutôt honorable, dans le sens où il est censé assurer la protection rapprochée en fait du président des États-Unis. Et boum, lors de la séquence suivante, on le voit clairement être dans la rue et s'occuper d'une traque qui est, on va dire, moins prestigieuse que sa mission d'avant.
Terroriste.
Voilà, qui est la traque donc d'un faux monnayeur qui s'appelle Rick Masters, qui est incarné donc par Willem Dafoe, et qui est un faux monnayeur ainsi qu'un peintre qu'on jugera plus ou moins raté selon nos affinités artistiques. Et l'un de ses son collègue en fait se fait tuer lors d'une filature, et il va être remplacé par le second rôle du film, qui est incarné par John Pankow. Et puis, à partir de là, la traque se dessine. Et comme toujours chez Friedkin, qui est un cinéaste obsédé par la contamination du mal, comme Fritz Lang, eh bien, le personnage principal va petit à petit muter, même si c'est c'est quelqu'un qui a de forts problèmes psychologiques dès le début, hein, qui est complètement drogué à l'adrénaline. On voit que plus le film avance, plus il commence à se perdre et à devenir quelqu'un d'autre. C'était aussi le cas dans Cruising, c'est-à-dire que le chasseur parfois est proie ou la proie devient chasseur. En tout cas, il y a cette porosité des identités qui se crée et qui fait que le film est tout sauf un énième buddy movie tel qu'on peut l'imaginer.
Et ce qui est très intéressant avec le film, c'est qu'il est complètement confit dans l'esthétique des années 80.
Alors justement, parlons-en, parce que ça, c'est ce qu'on reçoit, c'est d'abord et avant tout.
Parce que c'est important ce que dit Fausto.
Toujours.
Ce que le film n'est pas. C'est-à-dire que on a pu être surpris à l'époque. On s'attendait à voir de nouveau un buddy movie, etc. Et d'un point de vue du buddy movie, c'est déceptif. parce qu'il y a autre chose.
Et Buddy Movie,
c'est un film de compagnon. Voilà. Un film de compagnon, c'est-à-dire que c'est tous ces films où on voit un tandem,
un duo, un trio.
48 heures, par exemple.
Voilà, c'est, et dans, les années, voilà. Dans les années 80, c'est quelque chose qui est vraiment revenu en force. Et en même temps, le film pousse donc très loin l'esthétique années 80. On l'a entendu avec la musique de ce groupe très à la mode à l'époque. Et puis, il y a le traitement de l'image. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait appel à Robbie Muller. Robbie Muller, les plus cinéphiles d'entre vous, l'identifie comme le chef opérateur de prédilection de Wim Wenders dans les années 70. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a à nous raconter avec l'esthétique des années 80? Bah, si. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est que quand on va voir un artiste complètement expérimental, complètement fou comme Robbie Muller, on peut lui dire, on peut lui demander ce qu'on veut. Et on peut lui demander de pousser très loin les curseurs. Et à force de jouer avec l'esthétique du clip, de faire en quelque sorte une réponse, parce que le film est tout imprégné en fait de l'esthétique de Michael Mann, type de sa série de Flic à Miami en fait. Et ce, dès le générique, avec ces espèces de ciels bariolés, et constamment, on navigue dans des couleurs totalement éclatantes, avec des costumes qui là encore viennent parler de l'androgynie. Et c'est le moment des années 80 où on commence à mettre à distance cette esthétique-là. Et le film est comme si c'était un commentaire ricanant et sur ce qu'est cette esthétique. Et ce qui est très intéressant, c'est que constamment, le film n'est pas du tout un pastiche, n'est pas du tout une parodie. Il y a des vrais morceaux de bravoure dedans. Mais en même temps, tout se passe comme si le film n'était jamais dupe. Et c'est ça qui est totalement déroutant et passionnant avec ce film.
Fausto.
Oui, puis dès le générique, quand on a ces typos fluo qui sont accolés à des décors de Los Angeles, qui sont industriels, sales et qui sont tout à fait à milieu en fait de ce qu'on peut imaginer de la Cité des Anges, le décalage se crée en fait dès le départ.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est la figure non jouée par William Dafoe de Rick Masters, dont on ne sait pas très bien d'ailleurs si c'est un peintre raté qui est devenu faussaire ou un faussaire qui aime la peinture. Alors, et qui rêverait d'être Egon Schiele ou Munch. Le personnage est assez ambigu sur ce plan.
Ce qu'on comprend dans le film, c'est que c'est quelqu'un qui adore la peinture, mais qui a compris qu'il serait un peintre raté, qui donc utilise ses talents de graviste pour faire de la fausse monnaie et lui payer en quelque sorte sa peinture. Peinture qu'il brûle, c'est-à-dire qu'il va brûler les deux. Au début du film, on le voit brûler une toile dont il n'est pas satisfait, et plus tard dans le film, il brûle les faux billets qu'il a imprimés. Ce qui est très intéressant, c'est quand même cette peinture-là est l'œuvre d'un vrai peintre. C'est ce que raconte Friedkin dans le commentaire audio. Le peintre s'appelle Rainer Fetting. C'est une sorte de néo-expressionniste allemand qui vit à Los Angeles.
Oui, parce qu'il pratique un art violemment coloré.
Et alors bon, faut se méfier quand même de ce que racontent les metteurs en scène. J'ai un peu du mal à croire que c'est exactement ça. Mais ce que dit Friedkin, c'est que la toile que Rick Masters, donc Willem Dafoe, brûle dans la première scène du film où il apparaît, est une vraie toile que Rainer Fetting a effectivement brossée rapidement parce qu'il savait que elle était destinée à être brûlée à l'écran. Mais ce que dit Friedkin, c'est que si on l'avait pas brûlée aujourd'hui, on pourrait la vendre assez cher. J'ai un peu de mal à penser qu'il n'y a pas eu que c'est pas juste un double.
On reconnaît la gouaille de Friedkin là.
Ouais,
on reconnaît parce que parfois c'est toujours très intéressant de lire Friedkin. Il y a une formidable bio Hurricane Billy qui est sortie, ou de l'écouter en commentaire audio. Mais il faut faire très très attention parce que il est assez révisionniste. Il fait exprès parfois aussi de mettre de côté certaines parties de sa filmographie. Enfin voilà, il arrange beaucoup de choses. Mais du coup, ça rend en fait ses propos toujours assez pimentés, on va dire.
Alors, revenons à la figure de Rick Masters. Le personnage est quand même assez complexe parce qu'il y a cet homme qui brûle ses toiles et qui fait de la fausse monnaie. Donc déjà, c'est un attelage psychologique et assez imprévisible et peu fréquent. Et puis la manière dont Friedkin met en scène son corps comme une sorte d'animal qui va mal avec la cérébralité traditionnelle du faussaire. Parce que quand on voit la manière dont les faussaires sont mis en scène, c'est souvent soit des personnages qui ont un talent génial, mais qui sont socialement nuls, on voit ça dans le cinéma français, soit des personnages qui sont des gens plutôt assez sur le retrait, assez distingués. Là, au contraire, il y a une sorte de sauvagerie, à la fois érotique, pornographique et même guerrière, parce qu'il est très violent. Oui. Et il arrive même à gagner dans des bagarres extrêmement hardes avec les truands de Los Angeles, avec lesquels il s'affronte pour des histoires de règles règlements d'argent, de sommes non remboursées. Le personnage est complexe. Il est à la fois complexe psychologiquement et surprenant physiquement.
Ben c'est tout le charme de l'interprétation voilà. de Willem Dafoe. Hein. Et vous avez raison de dire que sexuellement, c'est très intéressant. La première fois qu'on le voit embrasser sa compagne, elle sort d'une scène de théâtre parce qu'il est très mécène d'une espèce de troupe de théâtre néo-kabuki à Los Angeles. Et elle est déguisée en garçon. Donc on a l'impression qu'il roule une pelle à un garçon. Et en fait, elle enlève son masque et il y a sa chevelure de fille qui apparaît.
Et par la suite, il fera cadeau, si j'ose dire. Il servira d'entremetteur entre la maquilleuse qui est lesbienne et cette personne, donc voilà. pour une nuit d'amour.
Voilà, et de même, quand le personnage de Peterson vient se faire passer pour un golden boy qui veut de la fausse monnaie, etc., il y a toute une scène très ambiguë, déjà dans les vestiaires d'un club de sport, où il faut se mettre à poil pour négocier
les contrats. Et puis, plus tard,
il va chercher au théâtre, donc c'est encore dans la loge, et c'est à ce moment-là, il y a cette scène avec la lesbienne. Donc pendant que les deux garçons parlent, les deux filles se massent les pieds de manière très érotique. Et y a un jeu sur le hors-champ. C'est-à-dire que Friedkin est un as pour savoir ce qu'il veut cadrer. Et là, comme il veut jouer une ambiguïté gay, Willem Dafoe est cadré à la taille. Et c'est dans le hors-champ qu'il a une ceinture, mais une ceinture avec les faux billets. Et il demande à Peterson de prendre sa ceinture en lui disant voilà, et l'autre lui dit c'est là le paquet. Mais... Et le commentaire, c'est vous êtes magnifique. voilà, avec ce jeu sur le vous êtes magnifique qu'on reviendra à la fin. Parce que le film, en même temps, et ça c'est aussi la grande idée, force, est construit sur un système de reflets et d'échos. Et par exemple, on voit que le personnage de Peterson est tête brûlée. Au début du film, il fait du saut en élastique. On le voit se jeter d'un pont, on n'a pas vu l'élastique. Donc on se demande bien ce qu'il fabrique, pourquoi il se jette d'un pont comme ça. Est-ce que c'est qu'il veut déjà se suicider parce que son copain est mort? Et en fait, non, c'est un saut à l'élastique, mais ça évidemment renvoie au saut du terroriste dans la séquence précédente qui est balancé. Qui lui n'avait pas d'élastique, mais c'est une ceinture explosive et non une ceinture de faux billets. Vous voyez comment tout communique. Et le sexe, et l'argent, et les genres, en fait.
Oui, peut-être juste pour terminer sur Rick Masters, je pense que l'animal dont il serait le plus proche, c'est vraiment le caméléon. C'est assez incroyable de voir comment ce personnage est à l'aise dans tous les milieux. Mmh. C'est quelqu'un qui est aussi à l'aise dans une loge de théâtre, qui est aussi à l'aise dans un club chic de Beverly Hills, comme dans un quartier pauvre de Los Angeles. Il gare sa Ferrari qu'il ne conduit pas aussi, donc son chauffeur et sa maîtresse. Donc c'est quelqu'un qui traverse un petit peu tous les milieux comme ça, qui est à l'aise à peu près partout. Ce qui est intéressant aussi, c'était la consigne de William Friedkin sur le tournage. Il donnait très peu de consignes de jeu à Willem Dafoe, si ce n'est celle-ci, c'était reste zen en fait. Le personnage devait avoir une espèce d'intériorité bouillonnante, mais sa façade devait constamment rester zen. Et c'est ce qui fait que le personnage est à la fois sexy et inquiétant. C'est un reptile sans froid qui traverse le film. On le regarde, on est à la fois fasciné, on a envie de le toucher, mais en même temps, il nous fait très peur.
Et comme on est chez le réalisateur de French Connection, il y a là une poursuite en voiture à contresens sur le périphérique de Los Angeles, à côté de laquelle celle de Bullitt, mesdames, messieurs, est une promenade en tricycle. On continue Mauvais Genre ce soir avec de nouveau William Peterson, mais qui la change de directeur et rencontre Michael Mann.
Sliding door.
Nationwide victims.
Yeah, this is Will Graham of the FBI.
One killer.
This is what the subject's teeth look like.
Stronger.
Un an plus tard, les aventures continuent pour William Petersen, Philippe Rouillet, avec Manhunter de Michael Mann, titré en français Le Sixième Sens, débrouille-toi ma poule.
Eh ben oui, parce que c'était avant que Night Shyamalan fasse Sixième Sens.
Ah oui, c'est...
Quand ils ont appelé film de Shyamalan Sixième Sens, ils ont dit non, on ne confondra pas avec le film de Michael Mann, parce que d'un côté, il y a le et l'autre, et il n'y a pas d'article.
C'est vrai que la différence...
De vous dire que ça a été une sacrée tambouille, et que maintenant, les éditeurs vidéo ont raison de revenir au titre original pour qualifier le Michael Mann de Manhunter.
En même temps, dans le genre titre idiot, Police fédérale Los Angeles, sachant que la police fédérale n'existe pas, c'est pas mal aussi. Hein, donc,
Alors que le vrai titre, c'était le titre du livre de Petevich, qui était adapté très librement par Fritkin. Voilà, ouais. C'est Tula Van Dye in Los Angeles. Vivre et mourir à Los Angeles, ça a quand même une autre gueule.
Complètement.
Même
si... ouais.
Alors Manhunter, donc tiré des romans de Thomas Harris.
Le Dragon Rouge. Qui sera après adapté par Brett Ratner. Et inutile d'aller voir. C'est inutile d'aller voir
Gardez
cette autre adaptation.
et première apparition à l'écran, donc Philippe Rouillet. Alors on continue de suivre la saga Petersen, mais de Hannibal le cannibale.
Voilà, parce qu'effectivement, le policier qu'interprète Petersen va, comme Clarisse, dans le Silence des agneaux, va consulter le docteur Lecter. Et c'est Brian Cox qui fait le docteur Lecter. C'est très intéressant. C'est une interprétation très différente que celle qu'on fera plus tard. Hein. On gardera bien en tête la chronologie. C'est en 90-91, quand Anthony Hopkins est Lecter dans le film de Jonathan Demme, le Silence des agneaux. Donc Brian Cox n'a pas à se calquer. Mais c'est un choix très différent. C'est un choix beaucoup plus clinique. Mais il est tout aussi effrayant. Et la manière qu'a Fritkin de filmer en champ contre champ les visites.
Michael Mann.
Ouais. Michael Mann.
Attention,
oui.
Là.
Pardon.
Fais attention, parce qu'après, il y en a qui ne va pas être content.
Hein. Ouais,
ça vous allait déplaire.
Je m'excuse. C'est Michael Mann qui a l'idée de filmer les barreaux de la prison exactement au même endroit dans le champ et dans le contre champ. Ce qui permet de voir comment l'un reste marmoréen, qui est évidemment Lecter. Et l'autre est beaucoup plus fragile et bouge sans cesse dans le cadre. C'est comme si c'était déjà presque une proie de Lecter. Mais Lecter, le docteur Lecter, Hannibal Lecter, n'est qu'un personnage secondaire, même s'il a un rôle décisif dans l'action, n'est qu'un personnage secondaire de cette histoire-là, qui oppose donc un enquêteur qui en a marre et qui donc a pris sa retraite. En Floride, il a une très très belle villa sur la plage, il est avec sa femme.
C'est le bonheur absolu. C'est l'Éden. Il est avec sa femme, son enfant, superbe villa qui donne sur la plage. Enfin, on peut pas rêver bonheur.
On fait du grillage pour sauver les autres tortues. Voilà.
tous les problèmes sont résolus.
Voilà. Et puis il y a Denis Farina qui joue Jack Crawford, qui était Scott Glenn dans Le Silence des agneaux, qui vient le relancer en lui disant là, on a vraiment une histoire de serial killer vraiment crade. Et on a vraiment besoin de toi. Et il lui amène les photos, et c'est ça qui est très brillant. Au lieu de lui amener les photos des corps, il amène les photos des familles qui ont été tuées, mais bien vivantes. Enfin, des photos rayonnantes, quoi. Et évidemment, l'autre, ça lui renvoie trop à sa propre famille, et c'est comme ça qu'il a envie de reprendre du service, même si c'est pas raisonnable du tout, et qu'il dit « Ok, je viendrai juste consultant, je vous donnerai des conseils, et je ne m'impliquerai pas, je garderai ma santé mentale pour moi. » Mais évidemment, plus ça va aller, moins ça va aller. Et l'idée, c'est que de complètement se fondre dans l'esprit du criminel pour pouvoir essayer de l'identifier. Et dès la troisième scène, c'est très troublant. C'est une scène où il va sur les lieux du crime et il visite ces lieux comme s'il était l'assassin.
C'est filmé de la même manière.
Et ça nous renvoie à ce qu'on voit dans la version Director's Cut, où l'ouverture du film, c'est en fait c'est des plans qu'on n'identifie pas sur le moment, et en fait c'est l'assassin qui rentre dans une des maisons. Et c'est exactement la même échelle de plans que va reprendre sans le savoir l'assassin. Donc la mise en scène de Mann, elle est là. C'est-à-dire que les dialogues ne comptent pas. Ce qui compte exclusivement, c'est la mise en scène. Et dans les bonus, je vous recommande très fort, parce que c'est une édition, on ne l'a pas dit, c'est une édition collector chez ESC.
ESC.
Et il y a un entretien. Il y a un entretien avec le chef opérateur Dante Spinotti, qui est un décorateur formidable. Chef opérateur formidable, c'est sa première collaboration avec Michael Mann, et après il va continuer, il fera notamment Insider, etc. Et qui raconte tout ça, l'utilisation de la couleur et l'utilisation de l'architecture chez Michael Mann. C'est très très intéressant de voir comment il utilise à la fois des lieux anciens et des lieux récents pour dire que les lieux sont l'extériorisation du mental des personnages.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Fausto Fazulo, alors c'est le Manhunter, Michael Mann, une esthétique qui est à l'opposé peut-être de celle de Friedkin. Autant Friedkin est dans le flashy, dans l'espèce de la moiteur. Là, au contraire, on est dans une sorte d'épure glacée. On est beaucoup plus géométrique que pulsionnel.
Il y a quand même des
avec malgré tout des
ouais il y a quand même des
le coup de bleu hein
ouais il y a des similitudes qui sont liées de toute façon à l'époque où ont été réalisés les films. Ce qui est drôle, c'est que Friedkin en fait avait un attachement très particulier au roman Dragon Rouge de Thomas Harris puisqu'il souhaitait l'adapter. Malheureusement, le roman était entre les mains de Dino De Laurentiis. Il avait travaillé, William Friedkin, avec Dino De Laurentiis sur un film qui s'appelle Tête vide cherche coffre plein. Ça s'était pas très très bien passé, donc c'est l'ami Michael Mann qui lui a en quelque sorte shippé le film. Par ailleurs, William Friedkin n'est pas très tendre quand il s'agit de parler Manhunter. Il trouve que le film est plutôt raté et il le qualifie d'exercice de style un peu vain. Donc ça, c'était pour les gentils mots de Bill Friedkin. Mais pour revenir sur le personnage de Will Graham, ce que je trouve vraiment fascinant, en fait, c'est que dès la première séquence du montage sale, donc, où l'on le voit sur la plage avec Dennis Farina et qu'il est en train d'être mandaté pour sa future mission, on sent finalement que c'est un personnage qui, même s'il recherche une certaine plénitude, reste quelqu'un qui est constamment en fait dévoré par ses travaux passés. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est jamais vraiment redescendu, hein. C'est un peu comme un toxicomane, c'est quelqu'un qui n'est jamais redescendu de ses missions d'avant et qui est... Il lui en faut très peu, en fait, pour rebasculer. Et c'est très intéressant, puisque il y a vraiment un truc avec la toxicomanie dans le film, c'est que c'est quelqu'un qui est, comme William Petersen d'ailleurs, dans Police Fédérale, qui est complètement drogué à son travail, mais de manière différente. C'est-à-dire qu'on a une tête brûlée dans le premier film. Là, on a un personnage qui est censément être plus responsable. Chef de famille, et les amis à l'abri, etc. Donc c'est quelqu'un qui est un petit peu plus adulte d'une certaine façon, mais... Il y a un degré obsessionnel chez lui qui le fait progressivement en fait tomber dans une sorte de trouble, et on se rend compte que c'est quelqu'un, même à la toute fin du film sans révéler, quand bien même sa mission est accomplie, on sent encore que ça va pas en fait, et que la seule façon pour lui d'être pleinement épanoui, eh ben c'est clairement de marcher dans les pas des tueurs qui traquent, quoi. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez fascinant, et ça s'ajoute aussi au fait qu'à l'époque le profilage était une spécialité qui n'était absolument pas connue. C'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle de profiler, ça tombe sous le sens, mais c'est, je crois, hein, le premier long métrage à parler de cette profession.
Et c'est très troublant. Fausto a évidemment raison de rappeler ce côté historique. À l'époque, ça nous avait tous frappé. Et ça va très loin parce que le tueur est obsédé par le regard. C'est-à-dire qu'il a peur du regard que les gens portent sur lui. C'est pour ça qu'il tue. Mais le film fonctionne sur un jeu avec les glaces, les reflets. Et le tueur se nourrit des films Super 8 qu'il regarde. Et c'est en voyant des films Super 8 d'inconnus qui décident que c'est des familles qu'il a envie d'investir. Et il faut voir comment il va les massacrer. Après, il dispose les corps, il en fait un spectacle. Il met des éclats de glace à la place des yeux. Donc, il y a ce principe de reflet qu'il y a entre celui qui traque et sa proie. Se retrouve réfléchi en retour par le travail sur l'image, avec en plus l'idée que ce type va finir par tomber amoureux, ce tueur obsédé par le regard, il tombe amoureux, et la seule femme dont il peut s'éprendre est évidemment une aveugle. Et Et c'est là que la chose est riche, c'est qu'avec elle, il va lui proposer dans un premier temps des choses très ludiques, et il y a une possibilité d'atteindre le réel bonheur, le partage, ce partage érotique qu'il cherche dans le crime, il le trouve réellement avec cette jeune femme qui est jouée par Joan Allen.
Avec une scène extraordinaire où cette infirmière aveugle est amenée chez un vétérinaire et elle caresse un tigre endormi. Alors ça, il y a une scène et l'actrice, hallucinante.
Et parce qu'on est chez Michael Mann, donc l'actrice a réellement fait un câlin à un tigre endormi. Inutile de vous dire qu'il y avait deux dresseurs sur le plateau avec des fusils prêts à intervenir avec des seringues endormantes. Hein, si le tigre se révélait mal à propos, mais quand même, enfin, je veux dire, il faut quand même le faire. Hein.
Et le personnage de Tom Noonan, donc le personnage de Francis Dolarhyde, incarné par Tom Noonan, très important à signaler puisque c'est quand même un rôle immense. On le voit en arrière-plan, il est littéralement en train de jouir hein, quand il regarde.
Absolument.
C'est une scène vraiment incroyable.
Une scène extraordinaire. Manhunter, le sixième sens de Michael Mann en DVD Blu-ray Collector chez ESC. Troisième sujet ce soir de Mauvais Genre. L'homme qui n'a jamais caressé les tigres, mais plutôt qui leur faisait peur ou qui leur crachait dessus, dans me souvenir, dans un film de Roger Corman, c'est Charles Bronson dans Le Flingueur, un film de Michael Winner.
Yes.
Mr. Bishop, we would like you to go ahead.
There are 1,000 ways to kill a man, and one assassin knows them all.
Murder is only killing without a license, and everybody kills.
But when the best in the business...
There are times when I could use a backup.
...takes on a partner...
I'm gonna teach you all I can.
The last hit of his life.
Play to win.
Voilà, Monsieur Charles Bronson dans un film, Philippe Rouillet, dont on attend assez longtemps les premiers dialogues.
Ben c'est ça, c'est 16 minutes. C'est 16 minutes et dans le livre, parce que c'est encore une édition collector, c'est Digibook, cette fois-ci Whiteside.
C'est Whiteside,
donc
magnifique
très beau travail. Très beau livre, le DVD, le Blu-ray. Le livre est écrit par Samuel Blumenfeld et il y a l'idée que le réalisateur du film étant Michael Winner, qui comme certains auditeurs l'ignorent peut-être, n'est pas du tout américain mais anglais d'origine. Et que donc, en 1971, quand il tourne Le Flingueur, il a peut-être connaissance du cinéma de Melville, et notamment du samouraï avec son ouverture muette pendant 9 minutes. Et il y a l'idée que quand on regarde Le Flingueur, ça commence effectivement comme le samouraï, à savoir un truand qui est dans l'exercice de sa profession et qui est entièrement consacré à ce qu'il fait. Et dans Le Flingueur, c'est spectaculaire parce que il s'agit c'est un tueur à gages, il a un contrat et au lieu bêtement d'être là avec son fusil à lunettes et d'attendre que le gars se pointe pour le buter, c'est toute une mise en scène où il va chez lui et on comprend pas très bien au départ ce qu'il bricole. Il bricole sa gazinière, il y a un très très long travail de sabotage de la gazinière, il change les sachets de thé pour mettre des sachets de thé apparemment identiques, mais on se doute bien qu'ils ne sont pas tout à fait identiques. Et puis, il y a tout un travail. Alors ça, je pense que, François, vous qui aimez beaucoup les livres, vous avez dû souffrir parce qu'il prend une édition bibliophile dans la bibliothèque et il tartine. Alors, et il tartine une espèce de
gomme.
De gomme grasse et en sabotant.
Alors, d'ailleurs, justement, j'ouvre le débat. Le personnage qui est tué au début du Flingueur, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il fait dans la vie?
Ah ben, on ne le
saura. On ne sait rien. C'est là où le trouble est maximum, puisque il ressemble à une sorte de poète de la côte ouest, personnage inoffensif,
à mon avis,
érudit.
Un trafiquant.
Voilà, il y a quelque chose de plus qu'on ne saura pas. Ça, c'est assez habile de la part
de il s'agit de rentrer de plein pied. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a tout un non-dit dans le film. Parce que, au départ, dans le scénario, parce que ce flingueur va finalement prendre un apprenti. Et dans le scénario d'origine, il y avait une relation homosexuelle. Il tombait amoureux de ce jeune garçon, il le prenait comme apprenti, et il y avait à la fois une relation maître-élève classique, mais qui était teintée d'érotisme. Charles Bronson lit le scénario, il dit « moi je suis pas un PD, hein, donc s'il vous plaît, vous m'enlevez ça ». Hein, et alors c'est effectivement enlevé, mais ça y est toujours parce que Michael Winner est très malin. Et dans Celluloid Closet, vous savez ce film sur tout ce qu'il y avait de placards de l'érotisme gay dans le cinéma hollywoodien, les auteurs montrent bien comment la première apparition du jeune qui est joué par Jean-Michel Vincent, tout un programme, c'est d'abord son cul qui est filmé, son cul qui se trémousse devant l'œil sidéré de Charles Bronson. Et c'est un peu Charlton Heston dans Ben-Hur, quoi. Il est pas, il a pas compris que il était un icône gay et tout le monde le sait dans le film sauf lui. Et là, c'est un peu ça qui se rejoue dans cette ouverture du flingueur.
Fausto Fasulo.
comment rebondir sur le petit cul qui trémousse de Ian Michael Vincent?
Bah oui, là, non, là, il y a un problème. Vous êtes attendu, là.
ce que j'aime bien dans le flingueur, pour moi, en fait, c'est un film sur l'artisanat. C'est-à-dire que on a écoutez
le compagnonnage.
C'est un film sur l'artisanat. Donc déjà on a le titre original, le mécanicien,
le mécanique.
On a l'idée d'apprenti. On a ce personnage donc incarné par Charles Bronson, donc Charles Bruchinski, prolétaire lituanien. Enfin, il y a vraiment une dimension du travail bien fait, de la passation du savoir, tout ça, etc.
Absolument.
Qui résonne vraiment avec l'artisanat et qui est très intéressant puisque c'est un vrai artisan du crime. Et puis surtout, ce que je trouve passionnant dans le film, c'est que tous les personnages sont profondément antipathiques. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs le fil rouge peut-être dans la carrière de Michael Winner, c'est qu'il fait vraiment, il fait pas toujours des grands films, mais il fait souvent de grands films avec des personnages profondément antipathiques. C'était déjà le cas, par exemple, du Corrupteur avec Marlon Brando, ou même un film comme Death Wish, Un justicier dans la ville. C'est un film qui est très très compliqué pour l'empathie du spectateur. Et là encore, c'est pareil. Quand bien même on a ces deux personnages et on a une idée qui est assez sommaire, effectivement, de maître et élève, on a quand même affaire à deux sociopathes avec des idées quand même assez folles, comme le personnage de Charles Bronson qui entretient une sorte de simulacre de relation où il paye une prostituée qui joue un petit peu sa femme. Enfin, il y a plein
d'idées. Alors qu'elle est jouée par la femme de Charles Bronson dans la vie.
Oui, Jill Ireland. Donc, il y a une scène aussi de suicide devant Ian Michael Vincent, où il laisse sa copine, si je me souviens bien, se vider de son sang. Enfin,
et Charles Bronson est très docte. Oui, oui, ça prendra 3 heures une fois que vous vous êtes ouvert les veines. Donc, alors d'abord, vous aurez une sensation de froid. Et puis...
c'est quand même un film qui vraiment met à mal l'empathie du spectateur et qui est pour le coup totalement le produit de ce qu'on pouvait trouver en termes de liberté morale des années 70. Hein.
C'est très jouissif en tout cas de le retrouver dans cette édition collector. On remercie Whiteside de cette sortie.
Trois films, d'ailleurs, trois tandems. Le premier, Chance, Eric Masters, c'est-à-dire le flic qui traque le faussaire. Le deuxième, c'est la traque par le même flic d'un serial killer. Et le troisième, c'est une espèce de rapport extrêmement ambigu entre un tueur et son élève. Tels sont les trois sujets de ce soir dans Mauvais Genre, qui s'achève bien évidemment par Christophe Beer.
Il se munit d'un banal stylo Bic cristal noir et d'un papier machine 80 grammes A4 qu'il plie en deux, voire en quatre. Il obtient ainsi une superficie de moitié ou de 10,5 sur 14,8 cm pour dessiner inlassablement depuis bientôt 10 ans des scènes fourmillantes d'orgies sadico-pédérastiques. Pour ce monomaniaque nantais, le stylo bille permet un velouté et une souplesse inégalables. Ses contraintes techniques conviennent aux dessins de guérilla exécutés dans le bus, le train, aux toilettes, au lit, plutôt que dans son atelier. Le trait est puissant et minutieux, forcément celui d'un professionnel du dessin, préservé par un pseudonyme qui retentit comme un coup de théâtre. Mavado Charon est le Mr. Hyde d'une œuvre frémissante de sexe violent, composant un chaos post-apocalyptique. Arènes déglinguées, camps barbares, squats insalubres, bretelles d'autoroutes dévastées, zones périurbaines jonchées de carcasses de voitures flambées abritent d'affolantes partouzes homosexuelles. Pour la première fois, l'artiste abandonne les autopublications, les revues confidentielles indépendantes et les gravezines underground pour offrir un livre monstre au titre net « Dirty ». Édité par Mania Press. 240 pages noir et blanc offset contaminent le lecteur par leur folie inextinguible de sang, de sueur, de jouissance et de mort. Les fantaisies sexuelles, les mutilations, les explorations d'orifices ne sont jamais épuisées. Règne noir du harnais en cuir, des chaînes, des genouillères cloutées, des masques à gaz, des pinces à seins, des plugs faramineux. Les maîtres s'inspirent de Leatherface, des cénobites de Clive Barker et des mastarpilleurs de Ken le Survivant. au service de leur luxure sans limite, toute une humanité souffrante d'hommes-chiens encagoulés, d'éphèbes gladiateurs, de travestis en barésille, engaudés, encagés, fistés, sont asservis, éviscérés et décapités avec un enthousiasme déconcertant et pourquoi pas communicatif. Charon avoue l'influence de l'imaginaire extrême de Hogg, de Samuel Delany, l'exubérance gore des 11 000 verges d'Apollinaire et les backroom hardcore du peintre Bastille. Il surcharge de détails, à la manière d'un Jérôme Bosch shooté aux poppers, libre aux spectateurs de succomber à ses enfers, n'en retenir que les aspects intolérables ou traquer un trait d'humour macabre, la présence saugrenue d'une lampe de chevet ou de peau de fleurs parmi des membres découpés. Il renoue avec la tradition iconographique des supplices, pourrait illustrer Octave Mirbeau, mais préfère Tony Duvert. Dirty est aussi disponible dans une édition de luxe signée et numérotée avec une surcouverture sérigraphiée. Les infernales visions de Mavado Charon dans cet écrin d'esthète n'en sont que plus dérangeantes.
Voilà, merci Christophe Beer. Ainsi s'achève Mauvais Jeu. On sera allé de Ronald Reagan à Mavado Charon. Le contrat est donc rempli. Je rappelle les sujets traités ce soir en DVD et Blu-ray. Police fédérale Los Angeles chez Carlotta. Manhunter Michael Mann chez USC. Le flingueur Michael Winner chez Whiteside également. Le cinéma de minuit de Patrick Brion, c'est chez Télémaque. Et puis les 300 chefs-d'œuvre à connaître chez First de Thierry Grillet. Et puis bien sûr, le numéro spécial de Mad Movies sur Massacre à la tronçonneuse et la revue Les Amis de l'Ardenne, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Stéphane Desmon, Céam Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnay, Philippe Rouillet, Fausto Fazulo, Christophe Beer et François Angelier vous remercie d'avoir suivi cette émission. Toute l'équipe vous souhaite bien évidemment un très bon Noël 2017. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année. En vedette, Anne Rice qui nous a accordé un entretien à Hubert Prolongeau et Marjorie Cameron au cœur de l'exposition À mon seul désir, visible à Paris jusqu'au 10 janvier au 17 rue Dieu chez Agnès B. D'ici là, joyeux Noël de nouveau. Bonsoir à tous.